crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi.
Atmosphère, it's a machine gun, atmosphère.
Pussy, 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 come on in, pussy lovers.
Here's Johnny.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
S'il y avait du danger, ben ouais,
je suis avec une hyène. Alors là... I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Nobody fucks with the Jesus.
Comment peut-on vivre dans un corps pareil?
What makes you think she's a witch?
Oh, she turned me into a newt!
Tic, 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 tic.
Ravi Jacob! Elle va danser!
My name is Maximus Decimus Meridius.
You cannot die, MacLeod.
Yeah! The way of the samurai is one of immediacy.
Quoi? C'est un gueux qui possède le château.
Give me the fucking keys, you fucking cocksucker, motherfucker!
Knock it off, get back!
Happy birthday to you!
Mais donne-moi sur la tête le pénis, balance ton nom!
Spons! Général Spons!
Nobody calls me.
Tiens, c'est terrible quand tu as mauvais oeil à l'école. Tu devrais faire attention quand tu parles près de l'aîné des gens, parce que c'est désagréable aussi.
Let me give you a little inside information. About God. God likes to watch.
Juliet! Juliet!
How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me what's funny.
Elle est complètement sourde. Tu peux lui dire toutes les célébrités que tu veux, elle entend que dalle.
Go ahead. Make my day.
You bluff, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
Houston, we have a problem.
Does he look like a bitch?
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Par exemple, t'as oublié quand est-ce que tu l'as enculé, ben moi je peux te dire que c'était le 12 novembre, tu vois.
Anything to declare?
Yeah, don't go to England.
When you have to shoot, shoot, don't talk.
Welcome to Fight Club.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans votre meilleure émission de cinéma qui fête sa rentrée, c'est Bande Annonce, donc l'émission de cinéma du vendredi soir sur Radio Béton. On est une heure à l'antenne avec Émilie, bonjour Émilie.
Salut.
Et avec Mélanie à la technique, salut.
Hello.
Mélanie. Et on attend Jérôme qui devrait nous rejoindre d'une minute à l'autre.
Oui.
Ce soir, on a 5 films à chroniquer, mais on va d'abord commencer donc par les petits événements ciné de la semaine. Alors, je dis les événements ciné, je n'aurai que ceux des cinéma studios, donc si vous voulez compléter, les filles, avec ce qu'il se passe ailleurs, ce serait super.
Il me semble que ce sera déjà pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses.
Ouais. Alors, je ne vais pas énoncer tout ce qui se passe au mois de septembre, parce que je pense qu'il y aura, je l'espère, une émission vendredi prochain, ou en tout cas vendredi de la semaine suivante. Ce soir, là, pendant que vous nous écoutez, dans quelques minutes, à 19h45, il y a une rencontre avec la réalisatrice Laura Vandel. C'est la réalisatrice du film L'intérêt d'Adam, c'est une avant-première. Un film avec Léa Drucker. Vous pourrez donc rencontrer la réalisatrice, lui poser vos questions après la séance. C'est là, tout à l'heure, à 19h45. Je pense qu'il reste quelques petites places, mais bon, faut se dépêcher quand même. Sinon, vous aurez ce lundi une rencontre avec le réalisateur Aurélien Père pour le film L'Épreuve du Feu, un film qui est sorti fin août. Et donc, le réalisateur sera présent pour répondre aux questions ce lundi à 19h45. J'annonce que l'actrice Anja Verde-Rosa et Félix Lefebvre, qui devaient venir, ne viendront finalement plus. Ils sont en plein tournage, donc on est quand même ravis pour eux parce qu'ils ont un autre projet de film derrière. Mais le réalisateur sera là, donc c'est ce lundi. Il y aura aussi ce mardi 9 septembre à 13h45, le fameux Cinéthé hashtag 9, c'est déjà le 9e Cinéthé. Le principe, c'est que vous allez voir un petit film. Là, ce sera Palombella Rossa.
De Nanni Moretti.
Merci, Willy. Et donc, à la suite de la séance, il y a une petite discussion dans la bibliothèque des studios avec Tariq qui vous prépare son meilleur thé à la menthe. Donc, le but, c'est d'avoir un petit moment chaleureux et pouvoir échanger en toute liberté sur le film. Autre événement que j'annonce, c'est le fameux Retour de Cannes. C'est un événement qui a lieu pour la seconde fois. Du 10 au 28 septembre, vous avez des séances spéciales, des rencontres, des avant-premières. Le principe, c'est que ce sont des films qui sont passés à Cannes et vous avez l'opportunité de les découvrir en avant-première, sur des séances uniques. Il y a soit des venues de réalisateurs-réalisatrices, soit d'acteurs-actrices, soit ça peut être des mixeurs-sons ou des productrices. Donc des échanges à la fin du film, et quand il n'y a pas de venue, il y a quand même toujours quelqu'un pour présenter le film en début de séance, Je ne vais pas vous lister toutes les venues et toutes les dates, on fera au fur et à mesure, mais vous pouvez retrouver ça sur le site des studios, www.studiociné.com, dans la rubrique événements, c'est Retour de Cannes. Et je le rappelle, c'est un événement porté par le GNCR, le Groupement National des Cinémas de Recherche. Oui.
Tu voulais pas quand même peut-être parler du film Nino qui fait partie de cette sélection parce que...
Si, c'est le 10 septembre en plus. Tu as raison, c'est la semaine prochaine.
Il me semble que c'est tout un film que tu avais bien aimé.
C'est... Oui, c'est Nino. Alors on en reparlera quand il sortira en national, mais c'est le film du mois au studio. Un film avec, d'ailleurs, il y aura la rencontre de la productrice mercredi 10 septembre. Alors avant, vous allez manifester, vous foutez le bordel, vous faites tout ce que vous voulez. Mais à 19h45, vous venez au studio le découvrir. J'ai oublié le nom de la réalisatrice.
C'est Sandra Da Fonseca, la productrice. Qui...
Ah oui,
et la,
réalisatrice, c'est Pauline Lauquez. Donc sa productrice sera là. C'est un film très beau, très touchant. Je ne vais pas spoiler davantage, juste dire que c'est un film qui parle notamment, entre autres, des MST du côté masculin, ce qui est plutôt rare en général. Et c'est une très belle histoire portée par un acteur assez extraordinaire. Et c'est le coup de cœur de l'Association française des cinémas RSC pour les 15-25 ans. Mais évidemment, c'est un film qui s'adresse à tout le monde. Ensuite, il y aura le samedi 13 septembre. Je le dis au cas où il n'y ait pas d'émission la semaine prochaine, sait-on jamais. C'est le film L'amour qu'il nous reste de... Oula, Ynur Palmason. Je ne sais pas si je le dis bien.
Islandais, sans doute, mais on n'est pas encore très fort.
Il n'y a pas de venue, mais il y aura une présentation du film en début de séance. Donc, ce sera samedi 13 septembre à 19h15. Et pour la suite, on redira la prochaine fois qu'on viendra.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci, Manon.
J'ai oublié un truc qui se passe la semaine prochaine.
Ah, mais on a encore le temps. Allez, on prend le temps.
Je vous dis, c'est une grosse rentrée à bande-annonce, c'est une grosse rentrée au studio. C'est le film La classe moyenne, pardon, en avant-première, jeudi 11 septembre, donc jeudi prochain, à 19h45. Et là, c'est le réalisateur Anthony Cordier qui viendra présenter son film et avec lequel vous pourrez échanger en fin de séance. Moi, je l'ai vu en avant-première. C'est un film vraiment qui fait du bien. C'est, comme son nom l'indique, sur la lutte des classes, mais avec beaucoup d'humour. On est sur une sorte de, comment dire, de forme théâtrale.
Comédie noire aussi.
Comédie noire complètement, avec Laure Calamy ou encore Ramzy Bedia. Enfin voilà, tout.
Laurent Lafitte, Élodie Bouchèze, Noé Habitat. Il y a un gros casting. Hein.
Un gros casting, c'est drôle, c'est sombre, c'est un peu trash. Voilà, ça fait du bien. Donc je conseille cette avant-première.
Et Anthony Cordier est originaire de Tours, donc il vient régulièrement présenter ses films au cinéma studio. Il avait réalisé Douche froide il y a longtemps, Gaspard va au mariage. Enfin, voilà, il avait fait la série OVNI aussi sur Canal+.
Ah oui, c'était marrant ça.
Ouais, c'était pas mal avec Melville Poupeau. Moi, j'étais assez fan aussi.
Donc il y a du choix, il y a plein de choses. Et voilà, j'ai passé outre les séances 15-25 qui s'appellent dorénavant les séances ciné-éclectiques du samedi. Le principe est le même, des séances uniques les samedis après-midi et ou soirée, dans le but de viser un public plutôt ado et étudiant. Bien sûr, tous les âges sont les bienvenus. Ça s'appelle Cinéclectique, dans le but de valoriser le fait que ce sont des films de tout genre, toute nationalité, toute réalisation et tout format. Voilà.
Et vous, il y a des jeunes qui participent avec vous à la programmation, toujours, pour ces rendez-vous ?
Il y a toujours... Alors, on fait la programmation, nous, en interne, mais une fois par mois, la programmation est portée par le Ciné-Club Ado des studios, donc des jeunes de 14 à 17 ans, des lycéens et lycéennes de Tours, qui, une fois par mois, choisissent un film suivant la thématique de leur choix. Et ils viennent animer, présenter le film, accueillir le public, ça continue. Le Ciné-Club Musique, en partenariat avec Jazz à Tours, continue aussi. Et la première séance aura lieu le vendredi 7 novembre en partenariat avec le festival Émergence, donc en partenariat aussi avec le Petit Faucheux. Ce sera un documentaire qui s'appelle Jigin Ni, la voix des femmes, un documentaire qui met en avant des femmes en Afrique qui font du chant. Voilà, donc il y aura un échange après le film, donc tout reprend comme l'année dernière.
Et on n'arrête plus, Manon, mais je crois qu'on va quand même faire une pause musicale et passer ensuite aux chroniques des films que nous avons vus cette semaine.
Parfait.
Allez. C'est toi, Mélanie, qui a choisi la pause musicale.
Bizarrement, j'ai choisi du rock. Enfin,
bizarrement.
Allez, c'est parti.
Until it gets into my
Eh bien, c'est toujours l'émission bande-annonce sur Radio Béton 93.6. On reprend les bonnes vieilles habitudes, c'est la rentrée, et donc le vendredi soir à 19h, c'est l'émission qui parle de cinéma. C'est moi qui dois enchaîner, mais j'ai pas pris mes notes pour vous parler du Roi Soleil, le deuxième long métrage de Vincent Maël Cardona.
Je t'en prie, tu as le temps, prends ton tote bag.
Et donc, je vais sortir mon cahier. Mais je sais déjà vous dire que donc ce film, Le Roi Soleil, a été en séance de minuit au Festival de Cannes. Je sais aussi vous dire que c'est le deuxième long métrage, comme je viens de le dire, de son réalisateur, qui avait réalisé Les Magnétiques, qui avait été un premier long métrage très très remarqué, puisqu'il avait déjà eu le César du premier film et aussi beaucoup d'autres prix dans les festivals. Les Magnétiques, ça parlait... C'était une histoire de la jeunesse dans les années 80, enfin en 80, et c'était surtout autour des histoires des radios libres. Et je crois que le réalisateur, il s'était beaucoup documenté, et je crois que Radio Béton avait été une des radios un peu auditées pour avoir des éléments et tout sur le film. Et je sais qu'il était venu présenter Les Magnétiques à Tours, avec une soirée en partenariat en tout cas avec Radio Béton. Donc là, en fait, le film n'a absolument rien à voir. C'est un film plutôt qui va être dans le genre un peu du film noir. Il a un très beau casting, puisqu'on va enchaîner avec... on va avoir Pio Marmaille, Lucie Sang, Sofia Intermani, Panayotis Pasco, Mario de Medeiros, entre autres. Le film raconte l'histoire suivante. Donc, Le Roi Soleil, c'est un bar PMU à Versailles. Un homme y meurt en laissant un ticket de loto gagnant de plusieurs millions d'euros. Et les témoins du drame commencent à imaginer comment ils pourraient s'arranger avec leur conscience et la réalité, et ainsi se répartir l'argent. Et si la vérité n'était qu'un scénario bien ficelé. Donc le film... se veut un peu comme un jeu de pistes scénaristiques multiples et comme un exercice de style qui va faire varier le récit. Je vais essayer d'être claire pour que vous compreniez, parce que c'est aussi un peu... Il y a une construction narrative un peu complexe, comme vous le commencez à le comprendre. D'ailleurs, le film commence sur une fausse piste, puisqu'il commence une séquence au château de Versailles, où un étudiant fait un peu la leçon sur la question des représentations du pouvoir et de ses faux-semblants. Et après cette scène, le film ne sortira quasiment plus du bar PMU, où l'étudiant s'est réfugié, avec d'autres personnages. Et on aura une unité de lieu, d'action et presque de temps, puisqu'on aura aussi plusieurs versions du récit. Donc en fait, pour expliciter un peu les choses, on est au petit matin, on a deux policiers interprétés par Pio Marmaille et Sofia Intermani qui se débriefent un peu une nuit ou qui a été un peu compliquée pour eux, où l'un d'entre eux a failli commettre une bavure. Arrive un vieil habitué qui se rend compte qu'il a le ticket gagnant. Il y a d'autres personnages, l'étudiant dont j'ai parlé, un infirmier qui débriefe un peu sa nuit, et il y a un jeune homme qui arrive et qui va, comprenant la situation, braquer le flingue d'un des flics et du coup voler le ticket. C'est le début, hein, donc je vous révèle rien de, enfin tout va ensuite être des variations à partir de cette situation de départ. Et évidemment, la situation dégénère jusqu'au meurtre dont on a parlé, du vieil homme. Et donc, sous un peu la stupeur, on va assister à plusieurs scénarios qui pourraient se dérouler pour les personnages présents et voir s'ils pourraient tenter de conserver le ticket, quelles hypothèses, qu'est-ce qu'ils devraient raconter pour se répartir, récupérer l'argent et se répartir l'argent tous ensemble. Donc, on est vraiment dans une comédie un peu de mœurs, une comédie vraiment un peu noire, parce que on va à chaque fois, les personnages vont être pris un peu dans leurs contradictions et quand même dans leurs défauts, puisqu'ils vont tous quand même basculer dans une certaine cupidité et vraiment l'argent va vraiment valoir bien le compromis, quoi. Donc ils vont faire fi aussi de leur morale. Chaque piste en fait va se matérialiser, chaque piste de scénario va se matérialiser avec un retour en arrière et un point de vue un peu souvent différent selon les personnages qui vont en fait voir la séquence et voir la situation. Mais évidemment, chaque choix risque de faire dégénérer la situation et le film va plonger petit à petit aussi dans le macabre sans trop révéler de choses. Voilà, c'est quand même un peu le chemin du film. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie volonté stylistique qui était assez ambitieuse. Et ça, je trouvais ça vraiment assez intéressant. Les comédiens sont plutôt bien dans leur rôle. Moi, j'ai une petite préférence pour Sofiane Zermani, que je trouve vraiment toujours assez juste là, dans un personnage de flic, un peu justement lui qui a un peu un dilemme moral en fait solutionner la situation et puis profiter de cet argent inespéré. Donc les personnages sont plutôt bien. Et le seul hic, c'est que je trouve qu'à un moment donné, le scénario se grippe un peu et que le dispositif va s'essouffler. Le spectateur qui, au début, se voit malmené un peu en jeu, acceptant un peu la situation, va être un peu lassé. Et je trouve que du coup, on va pas, en tant que spectateur, on va pas adhérer en fait à la proposition jusqu'au bout. D'ailleurs, effectivement, je l'ai dit, le film va pousser le curseur un peu vers le macabre, mais sans faire preuve trop d'humour, je trouve, dans les personnages et dans la situation, à part à quelques moments, mais sans doute un peu trop peu nombreux. Et donc, je trouve que ça n'aide pas non plus à ce que le film est quelque chose d'un peu plus enlevé, en fait. Je trouve qu'il est aussi un peu plombé parfois par son sérieux. Et je trouve que c'est dommage parce que quand on a une ambition et qu'on arrive aussi à poser quand même un jeu avec le spectateur, je trouve ça dommage que ça n'aille pas juste au bout. Moi, j'aime toujours bien les films qui essayent quelque chose, même s'ils n'y arrivent pas. Alors du coup, j'aurais pas envie quand même d'enterrer, entre guillemets, ce Roi Soleil, de dire que voilà, c'est pas un film parfait, mais je trouve qu'il y a une tentative et un démarrage qui en vaut vraiment la peine. Après, j'ai été moins convaincue par le film.
Et toi, Manon, en deux mots, même si tu l'as vu il y a très longtemps, et c'est pour ça que tu as laissé Émilie...
Je l'ai vu il y a très longtemps, et puis deuxième chose, je l'avoue, je me suis endormie.
Ah oui.
Ça m'arrive vraiment jamais devant les films. Alors, est-ce que c'est mauvais signe?
D'accord avec
peut-être.
Émilie, du coup.
Après, c'est que je venais d'en enchaîner peut-être deux, trois. Moi, je te rejoins. Je pense que si aussi je me suis endormie, c'est qu'au bout d'un moment, ce procédé me lasse un peu. Le côté huis clos, je l'aime beaucoup en général, mais là, pour moi, c'est un peu sans fin. Et en même temps, je trouve qu'il manque des actions pour me tenir en haleine. Moi, j'ai vraiment du mal avec l'acteur Pio Marmaille. Donc bon, forcément, tu restes un peu dessus. Et je me suis endormie avant la fin, donc je n'ai même pas la résolution du problème. Donc voilà, tout ce que j'en dirais.
Okay,
et ça m'a pas donné envie d'aller le revoir en entier.
Bon, donc il est un petit peu enterré malgré tout, malgré ma tentative.
Ça marche, les filles.
C'est un film qui est sorti le 27 août et qui est actuellement au cinéma studio.
Toujours au studio, ça marche. On se fait une petite pause,
oui.
Peut-être que ça fait revenir Jérôme.
Bah oui, ce serait cool.
Je vais lui mettre une musique un peu plus douce, voix. Il a peut-être peur.
C'est parti.
un petit Beatles pour faire venir Jérôme, ou pas, on verra. Mais ça fait toujours du bien. Vous êtes sur Radio Béton, avec Bande d'annonce, l'émission de cinéma. Et on vous parle de films toute la soirée. Donc on continue à chroniquer des films. Et cette fois, c'est Manon qui parle de Exit 8.
Oui, tout à fait. Exit 8, c'est un film japonais réalisé par... Attendez, l'accent. Genki Kawamura, qui est sorti... qui est sorti mercredi dernier. Il est adapté du jeu vidéo éponyme The Exit 8. C'est un jeu survival horror que je n'ai jamais testé, mais maintenant que j'ai vu le film, souvent j'aime pas quand je joue à un jeu, voir le film après, je suis souvent déçue. Là, du coup, j'ai envie de faire l'inverse. Maintenant que j'ai vu le film, j'ai envie de tester le jeu vidéo. Alors, de quoi ça parle ? Nous avons un homme qui est coincé dans un passage de métro, apparemment sans fin, puisqu'à chaque fois qu'il essaye d'aller vers la sortie 8, il revient au début sur ses pas. Les règles de sa quête sont simples. Il ne faut rien négliger d'anormal dans ces couloirs sans fin. Si on découvre une anomalie, il faut faire demi-tour immédiatement. Si tu ne vois pas d'anomalie, tu peux continuer ta route et tu passes d'un niveau. Pour enfin essayer de sortir à la sortie 8. Le moindre oubli le ramènera à son point de départ. Parviendra-t-il un jour à son but et à s'échapper de ce couloir infini ? Vous l'aurez compris, on est plutôt dans un film de genre, un film d'horreur slash fantastique. On est complètement dans un film qui fait complètement référence aux jeux vidéo. D'ailleurs, dans la construction même, on a tout plein de techniques jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on va parfois passer d'un personnage à l'autre. On va filmer au premier plan caméra subjective sur certaines séquences. On va aussi également filmer à hauteur de personnage, qu'il soit grand ou petit. Et comme dans un jeu vidéo, nous sommes dans un huis clos. Le film commence, donc sans spoiler, c'est vraiment la base du film. C'est un jeune homme qui est dans le métro bondé à Tokyo. On imagine les métros bien oppressants de Tokyo. Il est au téléphone avec sa petite amie qui est enceinte et qui s'apprête à faire un choix crucial. Est-ce qu'elle garde son bébé ou est-ce qu'elle avorte ? Ils sont en train de se questionner, pardon, j'ai la voix qui déraille, ils sont en train de se questionner tous les deux là-dessus par téléphone, et au moment de vraiment en discuter, son portable ne capte plus, il sort du métro, il veut prendre la fameuse sortie 8, il se retrouve tout seul dans les couloirs, et s'entame ce processus sans fin de sortie. Donc le principe, comme je disais dans le synopsis, c'est que pour trouver cette sortie, à chaque fois qu'il va prendre les couloirs, s'il découvre une anomalie dans les couloirs, ça veut dire une affiche qui a changé de place, une porte entrouverte dans les couloirs du métro, une lumière qui clignote mais qui ne clignotait pas à la base, une affiche qui va bouger un petit peu, quoi que ce soit, il faut absolument faire demi-tour pour monter jusqu'à un certain level. Je crois qu'il y a 10 levels comme un jeu vidéo. Donc c'est assez anxiogène, on est complètement enfermé avec ce personnage principal sous terre. Il va rencontrer des personnages sur sa route parce qu'à la base il est seul, mais il va croiser la route de quelques personnages. On ne sait pas si ces personnages sont coincés comme lui dans un espèce de truc spatio-temporel, si ce sont des fantômes, des créatures ou bien des êtres vivants comme lui. Il va y avoir plusieurs séquences évidemment assez horrifiques, la lignée du gore, des créatures, des cris, des bruits, des choses un petit peu étranges. Ce qui m'a étonnée dans le film, c'est que c'est quand même adapté d'un jeu vidéo apparemment assez populaire, mais on est sur un film qui, à chaque fois qu'il va en montrer un peu beaucoup dans l'horreur, les effets spéciaux m'ont un peu laissé de côté, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un plus petit budget ou alors que ce n'est pas très bien fait. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que sur les petits effets assez subtils, l'horreur va être beaucoup plus décuplée et ça va beaucoup plus fonctionner. J'ai pas envie de spoiler toutes ces petites choses-là parce que c'est ce qui fait vraiment la surprise du film, des petites choses auxquelles on s'attend pas. Et moi qui aime beaucoup les jeux vidéo d'horreur, je m'y retrouve là-dedans. Ça peut paraître long, un personnage comme ça qui fait tout le tour et qui doit trouver les levels, mais il va se passer plein de petites choses qui vont rendre le film rythmé, original, et puis qui va venir dénoncer plusieurs choses au Japon, dans la politique et tout ce qui est question sociale au Japon, mais qui aussi s'applique bien sûr au monde entier. C'est que c'est une société ultra connectée, hyper individualiste, hyper égoïste. Il y a la question aussi de l'identité, et puis la question ultra connectée, toujours être sur son téléphone, ne plus faire attention à ce qui se passe autour. Et là, cet homme va devoir apprendre à regarder son environnement, apprendre à réfléchir par lui-même dans une sorte d'escape game. Petite chose quand même, pas des moindres, c'est un film japonais, donc évidemment la culture, les questions sociales ne sont pas les mêmes que chez nous en France. Mais moi, en tant que femme et féministe, il y a une petite chose qui m'a dérangée, c'est que la fameuse question de se demander si sa femme doit avorter ou non va venir plusieurs fois dans le film se remettre en avant. Et au bout d'un moment, on comprend que voilà, le personnage a quand même un petit peu envie d'être père par rapport à ce qui va lui arriver. Et il y a une sorte de culpabilisation de l'avortement qui va se mettre un petit peu en place et qui m'a quand même pas mal dérangée. Ou après, peut-être qu'on peut le prendre sous différents prismes. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en voyant le film. Sinon, un petit peu déçue par la fin. C'est le genre de film, c'est un peu compliqué de faire une fin digne de ce nom. Quand on est dans un truc comme ça, sans fin, huis clos, c'est toujours complexe de faire une fin qui soit bonne. Donc ça m'a laissé un peu sur ma faim. Par contre, ça m'a laissé dans une atmosphère et une ambiance qui fonctionne plutôt très bien et qui me donne envie de jouer aux jeux vidéo. Donc je le conseille. Je crois qu'il est interdit au moins de 12 ans. Il est actuellement au cinéma studio, en VO évidemment, et ça s'appelle Exit 8.
Super. Bah, moi, ça m'a donné envie aussi de jouer plutôt.
Oui. Oui, ça donne envie de jouer, mais c'est le vrai. Film aussi.
Bon, bah super. Merci Manon. Allez, je remets du rock, hein, c'est pas grave.
Allez,
puisqu'il vient,
ça change pas les chiffres qui gagnent.
Et puis, on revient tout de suite pour parler. Ce sera sûrement moi d'ailleurs, je vous parlerai des évanouis tout de suite après la petite pause musicale.
Ouh.
Bien, après cette pause musicale bien dynamique, on va parler d'un film qui a fait sensation cet été et qui a fait créer la surprise. C'est Les Évanouis. Évanouis.
Ouais,
et c'est toi, Mel, qui
Weapons en version originale, donc, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose, on est d'accord, hein, puisque entre armes et évanouies, bon, y a un monde. Mais les deux vont bien au final. Quand on a vu le film, on comprend mieux pourquoi Weapons. Mais c'est un film qui est sorti il y a un mois. Je crois qu'il passe encore au CGR Centre, en tout cas. Moi, je l'ai vu en VO là-bas. il y a une semaine, donc voilà. Et je fais ma rentrée bande-annonce en n'ayant rien préparé, donc ce sera de la grande impro, merci d'être très indulgent.
Ça va très bien se passer. Étant donné que tu as plein d'expérience, on est
auditeurs,
hyper confiants.
Soyez indulgents. Donc c'est un film réalisé par Zach Greger, qui avait fait un long métrage en 2022 qui s'appelle Barbare, qui avait déjà bien plu apparemment à l'époque. Moi je ne l'ai pas vu, mais voilà. C'est plutôt un acteur sinon, Zach Greger. Perso, je ne connais pas. Première chose, enfin voilà, c'est le premier film que je vois de lui, donc en même temps c'est son deuxième. Et les acteurs, c'est Josh Brolin, qui joue très bien.
Oui, qu'on a vu chez les frères Cohen.
Voilà, tant d'expérience, j'allais dire. Bon, voilà. Julia Garner, que moi je connais de la série Inventing Anna. Et voilà, deux très bons acteurs qui tiennent. Enfin, c'est plutôt les deux persos principaux, même s'il y a, c'est un film choral, donc il y a quand même beaucoup de personnages. Donc le synopsis, c'est lors d'une nuit, la même nuit, il y a 17 enfants qui disparaissent. Ils sont tous de la même classe et il y a seulement un enfant et la maîtresse qui, eux, n'ont pas disparu et qui, a priori, ne savent rien de ce qui s'est passé. Pourquoi ces 17 enfants, la même nuit, à la même heure, sont sortis de chez eux, de leur plein gré, pour aller on ne sait où. Comment on sait que c'est de leur plein gré, que ce n'est pas quelqu'un qui est venu chez les parents? C'est par les vidéos de rue, les vidéos aussi de surveillance des maisons. On les voit, ils sont seuls et ils sortent d'eux-mêmes et ils vont d'un pas sûr, puisqu'ils courent, quelque part. Voilà. Mais personne ne sait où. Donc ça se passe dans une petite ville des États-Unis, on dirait une bourgade, voilà, mais des personnes, voilà, des classes sociales mélangées, mais quand même, ça va, on n'est pas sur du white trash, hein. On est sur une classe moyenne, voire peut-être plutôt aisée pour certains. Et la maîtresse est très vite prise en grippe par la petite ville et par les parents des enfants disparus, puisque quand on n'a comme ça aucune explication sur un groupe qui se connaissent tous, on se dit c'est quelque chose qui a été monté, ou enfin voilà, on essaye de trouver les parents essayent de trouver des explications, et pour eux, celle qui a l'explication, c'est la maîtresse. Et elle est prise un peu en grippe, surtout qu'elle est... du coup, on va revenir un peu, comme elle est prise en grippe, on va venir un peu chercher sa... j'ai mis sa bad reputation juste avant. Voilà, donc qu'est-ce qui est mauvais dans sa réputation? Qu'est-ce qu'il y a qui cloche chez cette maîtresse, comme si ça allait venir expliquer la disparition des 17 enfants. Ce qui est quelque part illogique, parce que personne n'est venu chercher ses enfants. Mais en même temps, ils se disent, c'est forcément un coup monté, elle a entendu des choses, il s'est passé quelque chose. Alors on part sur des complots, on la traite de sorcière. Voilà, c'est une femme. Voilà. Et c'est une femme en plus qui n'est pas dans les belles cases, vous savez... avec un mari, un enfant. Non, voilà, c'est une femme qui a des problèmes d'alcool, c'est une femme qui est trop proche, entre guillemets, des enfants, donc qui sortirait du cadre. C'est une femme qui a déjà perdu un emploi. Voilà, donc elle est très vite prise en grippe et on sait que dans des petites bourgades, ça peut vite monter en escalade au niveau et des insultes et du harcèlement et de la violence. Donc c'est ce qu'elle vit. Donc on va suivre un peu son histoire. L'histoire aussi, il y a un enfant qui reste. Pourquoi lui ? Donc la police va la police et le FBI se mettent sur cette affaire pour ils font des investigations pour savoir avoir des pistes pour commencer par où est-ce qu'on cherche. Parce que d'accord, on a les images, mais on n'a aucune idée de où sont allés ces enfants. Et on est sur du un mois après. On suit un peu pendant comme ça des semaines l'histoire. Le Zach Greger, ce qu'il a choisi comme construction du film, c'est un film choral avec beaucoup de personnages. Et lui, il veut qu'on voit l'histoire avec le regard de la maîtresse, le regard de Josh Brolin qui est un père, le regard de l'enfant, etc., etc. Donc en fait, il fait des histoires plan noir. Julia, voilà, on suit l'histoire d'eux. Ensuite, plan noir, l'histoire d'eux. Et à chaque fois, c'est pas on repart à zéro, on repart d'un événement Donc on ne perd pas complètement le fil de l'action, mais ça nous fait revenir à chaque fois soit un petit flashback en arrière, soit la même histoire, mais d'un autre point de vue. Donc on n'est pas perdu. C'est pas du tout perturbant, on n'est pas perdu. Mais c'est ça, sa construction. Voilà. Et c'est d'abord l'histoire par rapport à la maîtresse, par rapport à un parent, par rapport à l'enfant qui reste, par rapport au proviseur, comment il va gérer cette situation, etc., etc. Et je trouve que ce procédé est assez intelligent pour un film choral, et puis surtout dans le côté thriller, parce que on a beaucoup de plans de nuit, on a beaucoup de plans mystérieux, des ambiances qui viennent s'installer, et cette construction particulière, ça coupe, et ça nous ramène, et ça coupe, et ça nous ramène, et c'est assez intelligent. Sauf que c'est tellement utilisé, je pense qu'il l'utilise au moins 7 fois, qu'au bout d'un moment, quand ça coupe, tu dis « Non !» c'est bon là, je veux savoir maintenant, ça suffit, il y a trop de personnages, stop, on arrête les points de vue et on va à la fin s'il te plaît. Bon, ça dure 2 heures hein, le film, donc le procédé est utilisé pendant 2 heures, au bout d'un moment j'ai trouvé ça un peu répétitif, j'avais envie que, allez c'est bon on y va là, on est presque au dénouement s'il te plaît. Mais faut avouer que ça fonctionne, donc en même temps pourquoi il se priverait. Donc j'ai trouvé que le film, alors il utilise je sais que Manon elle est pas fan, mais des jumpscares. Moi ça marche, j'ai rien contre, hein. Mais moi ça marche toujours. C'est-à-dire que si je suis au cinéma, tout d'un coup il n'y a plus de bruit dans le film, je sais que je vais sursauter, je le sais.
Moi ça marche aussi, c'est ouais. Juste que des fois je trouve que c'est un peu la solution de facilité, oui. Quand c'est trop, mais ça marche aussi chez moi. Ouais.
Hein. Donc moi je aussi, le sais, je sais qu'il va se passer, je sais que je vais sursauter. Mais non, je sursaute quand même. Ça... Donc là, à chaque fois, ça n'a pas loupé. Hein. J'entends le silence, je fais « Non, mais c'est bon, je suis préparée. » Ah non, ça, je fais des sauts sur ma chaise. Donc, pour vous dire à quel point l'ambiance, même si je m'y attends, l'ambiance est tellement bien travaillée que ça fonctionne. Et en plus, surtout, il n'utilise pas du tout à outrance. On est sur des mystères qui planent et on a envie de résoudre ce mystère. Ils ont tous envie de résoudre ce mystère, même s'ils sont pas policiers, même s'ils sont pas du FBI. On a tous envie de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi 17 enfants? Ils courent d'une façon très particulière. Ils courent tous de la même façon. Les 17 courent de la même façon. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les mangas, mais Naruto ou Dragon Ball Z, ils courent les bras derrière eux comme ça. Et ils courent tous comme ça. C'est hyper chelou. Donc on a tous envie de résoudre ce mystère, et nous aussi sur notre chaise, on a envie de résoudre ce mystère, donc les parents s'y mettent, la maîtresse s'y met, tout le monde y va, devient un peu flic à sa manière, utilise des stratagèmes qui sont à leur portée, et il y a quelque chose comme ça de collectif qui emmène, en plus c'est un sujet quand même très sensible, c'est des enfants de CM2 je crois, enfin très jeunes, on a envie de savoir. On a envie de savoir. Et tout le film nous emmène comme ça dans ce thriller. À la fois, c'est de l'épouvante, du thriller. On est sur des classes qui vont s'en prendre à une personne en particulier, ce qui ne va pas du tout résoudre le problème. Des proviseurs qui essayent de gérer la situation, mais en mettant à l'écart. Donc au final, ça ne résout pas vraiment les choses. Enfin voilà, plein de maladresses. Qui va résoudre? Comment ça va se passer? Où sont ces enfants? Est-ce qu'on le saura? Voilà, c'est un peu tout le sujet du film. Et je dois avouer que sur les 2 heures, ça nous emmène parce qu'on a envie du dénouement, parce que c'est bien réalisé, parce que c'est très bien joué, et parce que cette ambiance qui reste tout le temps dans la même ville, un peu tout le temps les mêmes maisons, les mêmes pièces, les mêmes écoles, donc c'est pas du tout un huis clos, mais il y a quelque chose de très familier tout le temps, de ce découpage d'action. On est sur une action, paf, on coupe, on passe à un autre point de vue. C'est très complet et du coup ça fonctionne, ce film fonctionne vraiment très bien. Manon, tout à l'heure tu disais que tu aimais bien les films jeux vidéo et jeux vidéo faire les films, enfin tu vois, ouais. Et ce réalisateur qui je pense va être plutôt à suivre, hein, c'est plutôt pour un film d'épouvante, c'est plutôt un bon film, hein, vraiment, il va réaliser Resident Evil.
Ah,
voilà, Resident Evil en 2026.
Ça, donc, je n'ai pas tous aimé les films.
Moi non plus. Alors, j'ai beaucoup aimé le jeu vidéo.
Je le dis en direct, j'ai bouché mes oreilles sur la dernière partie de ta chronique. C'est pas parce que je n'aimais pas t'entendre, c'est parce que je vais le voir très bientôt et je voulais rien en entendre. Mais t'as très bien chroniqué ce que j'ai entendu.
Donc voilà, bon, en tout cas, peut-être un réalisateur à suivre. et un Resident Evil. Alors je sais, ça fait un peu blockbuster, c'est une franchise qui a déjà été faite,
ouais,
réalisée,
mais peut-être que exactement. Très intéressante.
Exactement. Donc pourquoi pas. En tout cas, Évanoui, je vous le conseille.
Donc en tout cas,
des bons frissons.
Tout à fait. Et du coup, on comprend pourquoi c'est un des succès inattendus de l'été américain et français.
Je pense qu'il a été astucieux dans sa mise en scène.
Bon, et bien super, donc dépêchez-vous parce que le film est sorti déjà depuis quelques temps, mais
ouais,
étant donné
mois.
Qu'il marche bien, il y a quand même encore des chances de le voir sur les écrans à Tours, en particulier au CGR Centre.
Est-ce
eh bien,
qu'on
on va...
on
fait une dernière petite pause avant de basculer.
2 minutes, 3 minutes, vous voulez quoi?
Bon, tu peux mettre 3 minutes et j'enchaînerai les 2 derniers films que je devais chroniquer avec notre ami Gégé, qui n'est pas là, j'espère
qu'il, pas
qu'il va bien. Mais je
ferai
rapide pour faire les deux.
Allez, un petit rancide de 3 minutes.
C'est Radio Béton, c'est l'émission Bande Annonce. Du coup, on entame un petit peu la fin de l'émission puisqu'on s'arrête à 20h. Et donc, on continue de chroniquer des films que nous avons vus ces dernières semaines. Manon, tu as vu A Brief Story of Family vas nous présenter.
Juste après Alpha, je fais d'abord Alpha.
Ah, t'as changé finalement.
Je vais faire les deux. Parce que je devais les faire avec Jérôme.
Donc tu nous présentes d'abord Alpha de Julia Ducournau, dont on a évidemment entendu parler avec sa Palme d'Or Titane et qui était fortement attendue sur ce film présenté à Cannes.
Je vais essayer de faire quand même assez vite parce que j'ai deux films. Mais bon, deux films que j'ai vus il y a un petit moment, mais il y en a un qui me reste plus en tête que l'autre. Donc Alpha, donc le dernier film, tu l'as dit, de Julia Ducournau, film franco-belge qui est sorti... Donc pas mercredi dernier, mais mercredi d'avant, mais il reste encore une bonne semaine au studio, voire même une deuxième semaine, je vous laisserai vérifier. Donc avec entre autres Tahar Rahim, Mélissa Boros et encore un nom difficile, Golshifteh Farahani. Le film était présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2025. Je tiens à dire avant que le film Grave de cette même réalisatrice, moi j'avais beaucoup aimé, notamment ce que ça racontait des étudiantes dans des universités où il y a beaucoup de pression finalement. Et puis j'ai vu après Titane que j'avais détesté, le mot est faible, mais bon, il en faut pour tous les goûts.
Moi j'avais pas détesté Titane, mais pour moi, Grave, ça n'avait rien à voir et je préférais nettement sa façon de réaliser Grave.
Alors, on est encore dans un film de genre, hein, mais un peu plus complexe que ça puisqu'il peut se caler dans plusieurs thématiques, on va dire. On est dans les années 80 dans la ville portuaire du Havre, donc déjà ça plante le décor. Alpha est l'enfant unique d'une jeune médecin qui travaille dans un service hospitalier avec des malades atteints d'un virus. Un virus un peu mystère au début, puis on va comprendre petit à petit ce que c'est. La jeune fille de 13 ans est un peu évitée par ses camarades et un peu harcelée. Et il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles elle serait atteinte d'une nouvelle maladie et qu'elle est la patiente numéro 1. Donc bien sûr, il est question de toutes les souffrances que peuvent avoir les adolescents et adolescentes, là en l'occurrence, de harcèlement scolaire. Et donc, un soir, cette jeune ado, elle consomme de l'alcool, elle a que 13 ans. Et puis, bah, pour se faire bien voir, elle va accepter de se faire tatouer un petit peu à l'arrache par un mec qui tatoue dans la soirée. Elle va accepter de se faire tatouer sans vraiment se faire désinfecter, enfin pas du tout dans un vrai salon de tatouage. Et donc, elle revient de sa journée avec ce tatouage sur le bras qui représente la lettre A. Et le monde va s'écrouler pour sa mère parce qu'elle a que 13 ans, elle revient d'une soirée et elle revient tatouée de manière dégueulasse, sa mère est médecin en plus. Et donc elle va s'inquiéter de savoir quelle maladie sa fille a pu attraper avec l'aiguille du pseudo-tatoueur. Son frère Amin, joué par Taha Rahim, va revenir les voir. Donc on comprend qu'il n'a pas vu sa sœur et sa nièce depuis pas mal de temps. Et lui, il est séropositif. Il est toxicomane et lui, ses bras sont couverts de marques. Le tatouage d'Alpha va se mettre à saigner de plus en plus au fur et à mesure du film. Ça paraît très bizarre et très complexe tout ce que je dis, mais c'est bien vraiment l'histoire du film.
Ça va.
Et donc où à l'école, les attaques vont se multiplier parce qu'en plus, elle est la nièce d'un homme séropositif malade. Elle manque de se faire noyer par un de ses camarades. Enfin bon, c'est assez hardcore. Finalement, l'horreur va aussi se situer beaucoup ici. Alpha, elle connaît à peine son oncle. Il est un petit peu spécial parce qu'il est quand même toxico, un petit peu. Voilà. Puis sa maladie fait que physiquement, il a perdu beaucoup de poids pour ce rôle. Il y a beaucoup de gros plans sur son corps très maigre. On voit beaucoup ses omoplates, ses côtes. Enfin, il y a un côté très. Très accentué sur le corps qui peut être dérangeant. Et du coup, Alpha, elle en a un petit peu peur. Donc, quand ils débarquent en effet chez eux, elle n'est pas très à l'aise. Et puis, en fait, elle qui est atteinte d'une maladie un peu mystère, lui qui est séropositif, vont se retrouver un peu là-dedans. Et lui va vouloir aider cette jeune adolescente, notamment l'aider à ne plus subir cet harcèlement. On comprend qu'ils sont tous les deux proches de la mort. Et du coup, ils vont faire véritablement connaissance grâce à ça. C'est 2 heures de film. C'est 2 heures de film où il y a toutes ces questions-là. C'est très fourni puisqu'il est question de l'adolescence, de la médecine, des hôpitaux surchargés, d'une mère qui élève seule sa fille dans une pauvreté certaine. Il est question harcèlement. Il est question d'un oncle qui va essayer de prendre un peu la place du père, enfin d'avoir une figure paternelle auprès de sa nièce. Et il est question d'une maladie étrange qu'a sa fille et du sida. Qui va être symbolisé par le corps, mais le corps qui part en poussière. C'est-à-dire que l'horreur visuelle va se situer sur Taha Rahim notamment, donc il y a d'autres personnages atteints aussi de la maladie, mais où son corps va se désagréger en poussière, en sorte de sable. Donc c'est tous les os qui deviennent du sable, c'est la peau qui devient, qui s'ouvre et qui commence à pourrir, et avec comme une espèce de crépi qui vient se mettre en poussière. Alors c'est beau comme c'est gênant. Je trouve qu'au niveau maquillage SFX, c'est vraiment très bien vu. C'est là où est l'originalité du film. Je trouve aussi la métaphore du sida à travers ces gens qui du coup vont se harceler, qui ont peur d'être atteints de la maladie partout, alors que c'était un peu Les rumeurs, à l'époque, on avait peur de choper le sida en faisant la bise à quelqu'un de séropositif, quoi. Alors qu'on le sait tous et toutes aujourd'hui que non. Ça vient aussi dénoncer ça. Après, sur 2 heures, il y a plein de séquences où, pour moi, il ne se passe rien de vraiment essentiel au scénario. Elle vient combler par des images, de brefs échanges entre la mère et la fille. Et au bout d'un moment, moi, ça me lasse. Mais alors, complètement. Je trouve qu'elle s'est vraiment, depuis Grave, elle a peut-être pris un peu la grosse tête, la dame, et elle va se baser, elle va s'asseoir un peu sur ses acquis, de l'originalité, de ses effets visuels et des métaphores. Et au bout d'un moment, je sens le film qui se la raconte, mais vraiment. Je décroche complètement. À part Taha Rahim, désolée, mais alors cette jeune adolescente, pourtant c'est son premier rôle, je la trouve... tellement sans saveur, sans texture, je sais pas comment dire, sans émotion. Vraiment, elle me laisse de glace. Et la mère, un peu pareil. C'est, voilà. Je sais que le film a fait beaucoup de parler de lui, que Taha Rahim a perdu énormément de poids, et on a parlé beaucoup de ça. Sauf que oui, il a perdu beaucoup de poids pour le film, c'est une chose, mais le film n'est pas bon. Et je le dis, moi, c'est une réalisatrice, j'ai vraiment du mal maintenant avec son travail. Et avec ses interviews, je trouve qu'elle manque d'une humilité incroyable. Donc c'est un film que je vais clairement pas conseiller, malgré le fait qu'il y ait des originalités et que ça aurait mérité d'être... Le sujet de base est bon, mais il n'est pas bien mis en scène et scénarisé. C'est pas très gentil, je suis quand même un peu désolée, mais pas tant que ça. Voilà, c'est Alpha, c'est en ce moment au studio, et faites-vous votre avis. Je vais dire très rapidement, je n'ai pas préparé le synopsis, donc je me permets d'aller rapidement sur l'internet, n'est-ce pas ? C'est
A Brief History of a Family.
Brief History of a Family, c'est un drame thriller réalisé par, encore un nom que je vais avoir du mal à prononcer, je suis pas très douée, Jin Jie Lin, avec des acteurs et actrices, je vais pas tous vous lister. C'est un film chinois, si je ne dis pas de bêtises, excusez-moi, j'ai pas mon camarade pour m'aider. C'est un film chinois, en effet, qui est actuellement au studio, mais qui passe déjà depuis 2 semaines. Donc, à mon avis, vous avez jusqu'à mardi et pas certaine que ça continue. L'histoire Wei, est le fils unique d'une famille aisée dans la Chine moderne et urbaine, alors qu'il se rapproche de Xuo, un camarade d'école plutôt mystérieux. Celui-ci commence à s'immiscer dans leur quotidien. Peu à peu, sa présence semble perturber l'équilibre familial. J'ai très peu de temps pour en parler, mais c'est brillant. J'aurais peut-être dû commencer par lui, finalement. On est en effet dans une Chine où il est autorisé, vous savez, j'espère que je ne dis pas de bêtises, d'avoir désormais 2 enfants. Il y a un truc en Chine qui était passé. Vous n'avez pas l'info, peut-être.
Si, c'était... ils avaient le droit d'avoir un enfant, c'est
un
ça ?
Un enfant, et après, là, on est tout juste au moment où ils ont le droit d'en avoir 2, mais ce couple n'en a qu'un, et on sent qu'ils sont attristés d'en avoir qu'un, on comprend qu'ils ne peuvent pas en avoir un autre, et du coup, ce camarade, il tombe à la bonne porte, parce qu'il est invité en tant qu'ami du fils unique, et au début, ils s'entendent bien, ils jouent un peu, ils parlent comme des ados, et au fur et à mesure, c'est plutôt les parents qui sont intéressés par ce camarade, qui vont venir le questionner, qui vont de plus en plus l'inviter à manger. Il fait partie intégrante de la famille. Et il n'est pas très content parce qu'il trouve qu'il prend beaucoup de place. Il comprend aussi qu'il est beaucoup plus aimé et adulé que lui par ses parents. C'est-à-dire que lui est plus brillant à l'école. Et ça, il lui fait comprendre aussi. Et dans la mise en scène, la caméra, il y a une espèce de tension qui monte. Tu sens que ça va péter. Tu sens qu'il va se passer quelque chose de grave. Une caméra très lente qui va tourner autour des personnages, se rapprocher,
s'éloigner.
Ouais. c'est un rythme pas très soutenu, mais c'est pas un problème. Contrairement à Alpha, où c'est plus soutenu, mais où je me suis profondément ennuyée, là, ça pose pas du tout de problème. Il y a une très belle esthétique, des plans fixes sur leur tablé, comme si c'était une famille, mais tu sens les tensions des petites musiques à des petits moments. Donc tu sens qu'il y a quelque chose de glauque, qu'il y a quelque chose de toxique. Cette chose toxique, c'est pas tant le camarade de classe, c'est les parents aussi qui sont toxiques. Puis ce qu'ils acceptent, comme si c'était leur propre fils, le camarade qu'ils ne connaissent pas. Le camarade va se servir de ça, évidemment, parce que lui, il a une famille pas cool, et il est intégré dans cette famille-là, donc il va peut-être un petit peu mentir, un petit peu en jouer. Des scènes où ils vont se disputer et se battre, les deux garçons vont arriver, et puis petit à petit, je ne vais pas spoiler le climax et toutes les choses un peu hardcore qui vont se passer dans le film, mais c'en est trop pour le jeune homme. On n'est jamais dans le spectaculaire. Tout est dans le pernicieux, le subtil. Et ça laisse vraiment une ambiance. En plus, c'est une famille qui ne parle pas beaucoup et qui vont vraiment juste s'adresser à lui. On se met complètement à la place de ce pauvre ado, ce pauvre jeune homme. Et encore une fois, l'esthétique, le son, les mouvements de caméra, les plans, la photographie, c'est vraiment un très très beau film qui vient dénoncer aussi tout le système de la famille en Chine, le côté il faut avoir des bonnes notes, il faut être quelqu'un par rapport à tes notes, mais ta personnalité ne compte pas tant finalement. Donc c'est un film que je conseille tout juste dans les dernières secondes, c'est Brief History of a Family, c'est actuellement au studio peut-être jusqu'à mardi sûr, et peut-être encore une dernière petite semaine, je ne sais pas.
Super, merci beaucoup.
Bah voilà, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout de cette heure d'émission qui parle de cinéma pour ouais, cette première.
C'était les drôles de dames de bande-annonce.
Voilà, c'était la rentrée quoi.
Je me permets un petit bisou à ma tante Marie qui nous écoute depuis la Grèce.
Mais oui, c'est vrai que c'est une auditrice fidèle.
Oui, elle nous écoute.
Oui, génial. Eh bien, on va vous laisser en bonne compagnie. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine.